L'émission Écho de la solidarité internationale, présentée par la Maison des Tiers-Mondes et de la solidarité internationale.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir l'association Format d'Environnement et c'est Serge Tostin, l'animateur de cette association, qui vient nous rencontrer et nous expliquer comment l'association agit à la fois au Bénin et à Madagascar.
Oui, bonjour. Effectivement, on a deux lieux d'action, le Bénin et Madagascar. Bon, pour le Bénin, donc, je vais vous présenter d'abord l'association. L'association a été créée en 2010 et a environ une quarantaine d'adhérents. Le siège est à Ajaccio, à côté de Montpellier. Et donc, on agit au Bénin et à Madagascar. Au Bénin, c'est essentiellement des recherches de projets avec des associations locales béninoises, dont actuellement, on est en train de monter un projet de pisciculture à Paracou, autour de Paracou et au nord de Paracou. C'est un projet de grande ampleur, mais donc l'association ne participera que dans une petite partie. Donc ce projet de pisciculture, c'est en fait le but, c'est la promotion des techniques locales de pisciculture liées au maraîchage, et c'est pour élever du poisson-chat dans une filière piscicole durable dans le nord du Bénin. Donc.
Ah, le poisson-chat est comestible.
Le poisson-chat est comestible. Et il y a plusieurs espèces, dont une africaine, qui est assez facile à élever. Parce qu'il faut remarquer que dans le nord du Bénin, la pisciculture n'est pas une pratique courante. Et donc, il y a tout un volet formation important. Donc, publication de brochures en langue locale pour élever ces poissons. Ces poissons sont en fait élevés dans des bacs hors sol, donc il y a toute une formation aussi. Et puis bon, il y a tout l'élevage, donc ça commence par les alevins, donc il faut des aquariums.
C'est de l'eau douce alors ?
C'est de l'eau douce. Donc le poisson-chat, il y a deux espèces, le claria et l'hétérobranchus. Et c'est des poissons-chats qui peuvent devenir très gros et qui sont, vous connaissez bien, c'est un poisson qui n'a pas d'arête. Et donc ensuite il est séché, fumé et vendu sur les marchés. Et donc il y a beaucoup de demandes. Et actuellement le Bénin est obligé d'importer du poisson congelé qui vient d'Asie ou d'Europe. Et donc c'est aussi pour être un peu plus indépendant localement. Donc ce projet, c'est un très gros projet de 30 millions de CFA. Hein. Et donc l'association ne participerait que sur le volet formation. La formation donc de financement au niveau des brochures, des posters, et parce que ce projet est fait avec une autre association béninoise qui a 7 personnes permanentes. Et donc c'est une grosse association de Paracou, hein, au nord du Bénin. Et donc voilà, c'est un peu le projet qu'on est en train de monter. Comme c'est un gros projet, ça va nous prendre un certain temps. Par contre,
c'est une demande que vous avez reçue d'une association locale.
Effectivement, c'est l'association qui a été créée donc en 2014 et qui rassemble donc des chercheurs de l'université de Paracou, qui a déjà commencé à travailler sur la pisciculture et qui a déjà des infrastructures, donc des aquariums, des bassins, et puis qui a déjà une certaine expérience des villages qui sont au nord du Bénin, qui connaissent. Et donc ils espèrent faire donc la formation de pisciculteurs pilotes, deux par commune, et donc ils vont travailler dans 4 communes du nord du Bénin. Et donc c'est un projet de 2 ans, très ambitieux, ça je reconnais. Bon, on va essayer de les aider.
Et oui, bien sûr. Oui. Vous avez l'aide de fonds européens?
Non, pas encore. Non, d'ailleurs, le projet n'est pas encore finalisé complètement. Donc, tout ça, c'est en construction. Mais la base de l'association, c'est en fait l'hygiène et le maraîchage. Donc, l'hygiène et le maraîchage, c'est-à-dire que pour l'hygiène, on s'intéresse aux lave-mains et aux latrines.
Donc, oui, vous nous l'aviez déjà expliqué dans une précédente émission.
C'était plus au sud, dans un village qui s'appelle Ouessé. Enfin, c'est une préfecture. C'est l'équivalent d'une préfecture. Et donc, c'est le travail de base de l'association. C'est d'essayer de construire des latrines chez des particuliers. Des latrines très peu coûteuses et faciles d'entretien. Et puis, on a fait des douches et des lave-mains aussi pour les écoles.
Oui, c'est toujours le problème qu'il faut suivre parce que cette hygiène n'est pas répandue.
Voilà, c'est ça. Donc, nous, on y va une fois dans l'année et on essaye de faire le bilan à chaque fois sur le nombre, sur les lave-mains, voir comment ils ont été entretenus, s'ils sont toujours utilisés. Parce qu'on demande justement, pour qu'ils soient bien utilisés, on leur demande une participation. Les écoles donc, les achètent à moitié prix, mais les achètent. Et donc, on essaye de vérifier l'année suivante si ils ont bien été utilisés, etc. Et s'il y a d'autres demandes. Et, mais le but, c'est en fait de faire connaître l'intérêt du lave-main. Bon, évidemment, on peut se laver les mains qu'avec des petites bassines. Nous, on propose un lave-main avec un peu plus sophistiqué. Et donc, on essaye de le populariser dans les écoles. Pour les latrines, c'est pareil. Les latrines, ça pose des problèmes parce que on a fait une enquête locale et on s'est aperçu qu'en fait, personne n'utilise des latrines. Tout le monde, puisque
c'est un tabou, je crois.
C'est-à-dire que, bon, déjà, c'est un investissement. Les gens, c'est une commune rurale là où on va et les gens ont la possibilité d'aller dans la nature. Et donc, il y en a qui préfèrent aller dans la nature plutôt que d'avoir des latrines près de chez eux qui sentent mauvais souvent, qui ne sont pas entretenues. Et donc ça c'est effectivement pas vraiment un tabou, mais c'est un rejet dû à l'odeur, et bon, l'odeur surtout, oui.
Oui, alors les procédés améliorent
C'est-à-dire que ce qu'on propose, oui, c'est des latrines un peu sophistiquées, oui. Un peu plus sophistiquées, mais qui sont quand même des latrines sèches, de toute façon, il n'y a pas d'eau. Donc, d'eau courante, la plupart du temps, donc il n'y a pas de... C'est des latrines sèches, mais plus sophistiquées que d'aller dans la nature. Et alors, bon, il faut expliquer aux gens que l'hygiène, c'est important, que de faire ça dans la nature, c'est un danger pour la diffusion de certaines maladies. Il y a les mouches, il y a les animaux. Donc, effectivement, c'est un sujet qui est assez difficile, mais qui est très important, puisque ça diminue... une grande partie des maladies diarrhéiques qui touchent les enfants comme les adultes. Oui, et donc, les tabous, c'est surtout à Madagascar qu'il y a des tabous, les tabous religieux, puisque pour les Malgaches, dans le sol, il y a les ancêtres. Creuser et faire caca dans la terre, faire des trous dans la terre, ça bouleverse un peu la vie des ancêtres, en tout cas.
En effet. Donc, c'est une de longue haleine.
Exactement. C'est un travail de longue haleine, effectivement.
Puisque ça touche, au fond, la vie sociale et
c'est ça, oui.
Les us et coutumes.
C'est-à-dire que les gens s'intéressent plus à avoir une moto ou un téléphone portable plus que l'hygiène et puis les toilettes. C'est ça le problème aussi.
Alors, vous avez apporté de la musique C'est une musique de Madagascar, je crois.
Oui, c'est une musique de Madagascar. C'est de la flûte des hauts plateaux malgaches. Et l'artiste qui est décédé malheureusement en 2001, Karakoutou Fra, qui a fait de très jolies musiques. Donc on va entendre le morceau You Don't Me, ce qui va pas trop choquer les oreilles occidentales, mais qui est très joli. Thank you.
très agréable musique en effet. Alors, nous partons maintenant à Madagascar, où Format d'environnement a une activité depuis déjà plusieurs années.
Exactement. Alors, cette année, on est allé en mois de mars et avril. Mais je voudrais d'abord donner quelques nouvelles de Madagascar. Je crois que
bien
vous êtes intéressé par
oui.
ce qui se passait à Madagascar. Bon, moi, on suit l'actualité, évidemment, un peu de loin, mais on la suit quand même. Effectivement, donc, ce qui se passe actuellement à Madagascar, les nouvelles principales. Bon, il y a les inondations. Il y a cette année une saison des pluies qui est très, très importante. Et bon, ce n'est pas la première fois, mais c'est toujours le même problème. La ville de Tananarive est inondée. Et même le sud, là où on va travailler à Tuléar, il y a eu des pluies très importantes. Il y a au niveau de... Bon, il y a les inondations qui touchent la population, surtout pauvre, qui s'est installée dans les plaines. Mais il y a aussi les problèmes au niveau de la municipalité, puisqu'il y a eu des élections municipales, c'était en 2015. Et donc il y a à Tananarive, surtout, qui est une ville de 2 millions d'habitants, et qui est quand même très très importante, puisque c'est là où on arrive quand on va à Madagascar. Quand on va à Madagascar, on arrive à Tana et on s'aperçoit que maintenant, il y a 2 millions d'habitants, environ, peut-être plus. Et il y a une mairie donc, qui a des problèmes d'assainissement. Les ordures s'entassent. Et il y a des problèmes entre le gouvernement, la municipalité et les conseillers d'opposition qui ont été élus l'année dernière. Et ce qu'on appelle la guerre des jupons.
Ah bon?
Oui, la guerre des jupons, parce que c'est que des femmes qui interviennent. Et donc, la maire actuelle, qui est l'épouse de l'ancien président Ravalomanana Manana, veut emprunter 20 millions d'euros. Pour nous, c'est des petites sommes. Pour là-bas, c'est en fait deux fois le budget municipal de la ville de Tana, qui est de 10 millions d'euros seulement.
Ah oui.
Pour nous, c'est pas grand-chose, mais pour nous, c'est quand même beaucoup. Il y a aussi le problème du sommet de la francophonie qui va avoir lieu à fin d'année 2016, du 15 au 20 novembre. Et là, Madagascar est obligé de s'occuper évidemment de l'accueil de tous les conférenciers.
Et oui, alors
ils ont
dans
fait
une
un village.
Ville qui a des problèmes d'ordures.
Oui, par exemple, ça c'est pas très agréable pour les visiteurs. Il y a aussi les problèmes de sécurité. Donc déjà au sud, à l'extrême sud de Madagascar, il y a eu des problèmes entre les voleurs de zébus et puis les militaires qui sont chargés de la sécurité. Et les militaires auraient peut-être assassiné et fait des exactions auprès de ces voleurs, enfin ou des voleurs ou des présumés voleurs. Il y aurait eu 16 exécutés, donc un est décapité. Et ça pose un gros problème pour la population. Et les militaires ont l'air de pas trop dans la dentelle, ne pas aller dans la dentelle. Il y a aussi, à Tamatave, il y a eu un enlèvement de deux enfants. Et on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de policiers qui étaient impliqués dans l'affaire. Il y a une technique qui a l'air d'être assez, qui est connue. C'est de sortir des prisonniers de prison et les utiliser pour faire ce genre d'action. Et les rentrer ensuite en prison. Ils ont un alibi tout trouvé. Donc ça, c'est en fait les nouvelles qui sont peut-être pas très heureuses. Mais bon, donc nous, on s'occupe de l'essentiel de ce que je vous ai dit tout à l'heure, des latrines, des lave-mains, etc. dans les écoles. Et on a un projet de réfection d'une bibliothèque dans une école qui est au centre-ville de Tuléar. Tuléar, c'est au sud-ouest de Madagascar. C'est une ville de 200 000 habitants et donc il y a une grande école au centre-ville, une école primaire publique de 1200 élèves. Et on a le projet d'aider à réfectionner une bibliothèque qui a été détruite plus ou moins par un cyclone, le cyclone Haruna de 2013, et qui a été ensuite envahie par les termites qui ont détruit le faux plafond, les livres, les étagères. Et donc, on est en train de négocier donc, la réfection de la toiture et des faux plafonds et l'aménagement des étagères et des tables pour les étudiants, pour les élèves.
Ça, c'est un projet donc, pour essentielle.
Cette, pour, oui, cette année, cette année, oui. Pour cette année.
Parce que vous avez aussi le résultat d'une étude qui concerne la filière Moringa.
Moringa, oui. L'année dernière, donc en 2015, en début 2015, on a encadré une étudiante de Supagro qui était en césure. Donc c'est une interruption qu'ils ont en quatrième année. Pendant un an, ils font des stages dans plusieurs domaines. C'est une étudiante qui était dans le marketing et qui a fait le sacrifice de venir à Madagascar pendant 2 mois, travailler donc sur les maraîchers de Tuléa, et pour essayer d'introduire une nouvelle filière, la filière Moringa, Moringa feuille. Alors je ne sais pas si les gens, si vos auditeurs connaissent le Moringa. Le Moringa, c'est un arbre de l'Inde et qui est très riche en protéines et en vitamines, et qui a une croissance très rapide et qui a une particularité, c'est qu'on peut le cultiver dans le cadre du maraîchage. C'est-à-dire qu'on le coupe à 1 mètre, 1,20 mètre, jusqu'à 50 cm, et on récupère les feuilles, les branches et les feuilles.
Oui, ce sont des feuilles persistantes.
C'est des feuilles persistantes, oui. Mais donc qui sont utilisées. C'est pour avoir un nouveau légume-feuille dans la série des légumes-feuilles des maraîchers. Parce qu'à Tuléar et dans le sud en général, contrairement au nord, parce qu'au nord, le Moringa est connu. Mais dans le sud, il n'est pas très connu. On connaît le Moringa comme arbre de
médicinal, je crois.
Oui, médicinal pour l'hypertension. Et donc, de temps en temps, les gens prennent des feuilles et puis se soignent. Mais ils n'ont pas compris l'intérêt de l'utilisation des feuilles pour la nourriture tous les jours, enfin, comme complément alimentaire.
Oui, or, il y a un gros problème de sous-alimentation.
Voilà, surtout chez les enfants, ou même les malades des hôpitaux, etc.
Un enfant sur deux est malnutri.
Il y en a beaucoup, il y a beaucoup, oui, d'enfants malnutris. Et donc, ce qu'il faut, c'est soit on utilise la plante pour les graines, soit on l'utilise pour les feuilles. Et là, l'objectif, c'était de créer de cette nouvelle filière au niveau des maraîchers. Et donc, la stagiaire, la Marie, a fait une enquête auprès des maraîchers pour savoir s'ils étaient d'accord pour d'abord connaître, faire la typologie de ces paysans, et puis ensuite voir s'ils étaient, prêts à cultiver ces moringas, donc sous forme de moringa feuilles, c'est-à-dire que ce n'est pas des arbres. Donc c'est une plante qu'on coupe tous les 2 mois et on récupère les feuilles. On fait sécher les feuilles, soit on les transforme en poudre, soit on les mange sous forme de feuilles. Et les Malgaches ont l'habitude de manger des légumes-feuilles.
Beaucoup de feuilles, oui.
Voilà, les légumes-feuilles bouillis dans l'eau bouillie. Et ils utilisent actuellement les feuilles de manioc et les feuilles de patates douces ou des salades, des feuilles de salade ou de choux chinois. Mais le moringa n'est pas encore... Et l'obstacle, c'est effectivement le fait que, comme ils l'utilisent comme médicament, ils hésitent à utiliser ça tous les jours. Hein, c'est un complément alimentaire, mais bon, ils n'ont pas encore compris que c'était un complément alimentaire. Pour eux, c'est encore un médicament. Donc, il y a toute une... Et donc, la stagiaire a terminé son stage en nous faisant des propositions...
Des recommandations
pour développer cette filière.
Alors il faut faire de la sensibilisation.
On commence par ça, oui. Et donc, c'est un projet sur 4 ans. Effectivement, on commence par la sensibilisation et la formation de maraîchers pilotes qui seraient d'accord pour faire, pour introduire ça dans leur parcelle. Et puis ensuite, il y a le problème des détaillantes aussi qui doivent pouvoir les vendre, puisque en fait, c'est aussi une filière économique. C'est pas... Il y a déjà des associations locales, des ONG qui utilisent le moringa sous forme de poudre dans les écoles. Mais au niveau de la population tuléar, ce n'est pas encore popularisé. Et l'objectif pour nous, c'était ça.
Alors, en fait, il y a 2 buts. C'est lutter contre la malnutrition et développer le tissu socio-économique du secteur agronomique périurbain.
Oui, effectivement, c'est pour essayer de développer le maraîchage. Pour le moment, il est assez marginal dans la région de Tuléar parce que c'est une région très, très sèche et ce n'est pas traditionnel. Et donc... Il y a assez peu de maraîchers Tout est introduit, enfin, tous les légumes viennent du nord, de Fianarantsoa, de Tana, et de quelques villages alentour de Tuléar. Et maintenant que la ville est à 200 000 habitants, il y a un énorme besoin de légumes. Et donc, je pense que c'est un projet qui peut être viable.
Oui, d'autant plus que le gouvernement a des projets aussi pour augmenter la nutrition.
Oui, le moringa.
Population.
Mais alors, régulièrement, il y a des campagnes pour développer le moringa, mais ça n'a pas encore pris complètement.
Et donc là, vous travailleriez avec des partenariats d'associations qui connaissent déjà la plante, qui l'utilisent.
Et oui, la plante est connue. Oui. Mais même au niveau, parce que la stagiaire est allée voir des médecins, et elle a trouvé des médecins qui ne connaissaient pas bien la plante. Ce qui est assez extraordinaire. Mais je pense qu'en en posant appui sur les associations qui existent déjà et qui l'utilisent, qui la produisent mais à l'extérieur, loin de Tuléar, et puis en s'appuyant aussi sur l'expérience de Malgaches qui sont du Nord et qui ont l'habitude de l'utiliser.
Oui. Hein,
en utilisant toutes ces techniques-là.
Oui, j'ai vu essayer. Dans le projet d'ailleurs que cette sensibilisation, vous pensiez la faire aussi par la radio.
Oui.
Parce que,
ah oui,
puisque une radio associative.
C'est un des moyens de sensibilisation important, oui, bien sûr. En langue locale aussi, oui. Bien sûr, oui. Aller voir les détaillantes, donc les persuader. Mais pour que les détaillantes vendent, il faut qu'il y ait quand même une production. Donc,
comment il faut une demande.
Je pense que si on met beaucoup de moringa feuilles sur le marché, avec la sensibilisation de la radio, de la télévision, parce qu'il y a une télévision aussi
oui.
Locale, on peut peut-être motiver et créer un marché. Évidemment, ça prendra, à mon avis, un certain temps. Mais je suis assez optimiste, puisque bon, c'est vrai que la nutrition... Bon, commencer peut-être par les hôpitaux, par les écoles, continuer à aller dans les écoles publiques.
Sensibiliser les docteurs,
et
les
médecins. Avec la crise, les cantines scolaires ont été plus ou moins détruites. Donc, essayer peut-être d'introduire ça dans les familles, au niveau des familles. Donc, c'est pour ça que je pense que ce projet a un avenir, mais bon, ça, c'est assez coûteux et il faut aller régulièrement voir ce qui se passe et voir comment ça peut avancer.
Enfin, ce rapport qu'a fait cette étudiante est très utile pour vous.
Ah oui, pour nous, il est très utile, bien sûr. Alors, j'ai appris qu'en fait, les étudiants de césure de la SUPAGRO n'avaient pas trop l'habitude de faire des rapports. Et nous, on était assez contents de voir que ça, c'était quand même possible.
Oui, voilà.
Ils ont l'habitude de faire des stages, mais sans rapport. Alors là, on a demandé un rapport, et puis un rapport circonstancié.
Je pense que c'est pour l'étudiant, c'est valorisant.
Moi, je pense, oui. D'ailleurs, Marie était dans l'objectif pour elle, c'était travailler dans le marketing. Et que maintenant, elle nous dit dernièrement qu'elle voulait travailler dans l'agroalimentaire et dans les pays du Sud. Donc, ça crée peut-être une vocation.
Voilà. Alors, écoutons encore un peu de musique. C'est un autre morceau que nous allons écouter.
Oui, mais c'est toujours le même, flûtiste, Rakutufra.
Alors, Serge Tostin, rappelez-nous où on peut rencontrer Format d'Environnement. Et...
Donc, Format d'Environnement a un site web qui est assez facile, Format d'Environnement, formad-environnement.org, où les renseignements sont là, avec les statuts, les dernières activités et puis beaucoup de documents, notamment des vidéos. Cette année, par exemple, on a fait 7 vidéos. 7 vidéos sur différents sujets qui font connaître un peu la ville de Tulliard, les activités qui s'y passent et puis les activités de certaines ONG locales.
Voilà, et où on peut voir les lavabos.
Par exemple, on peut voir la construction des latrines et des lave-mains et des douches. Et puis, donc, d'autres sujets, surtout de l'artisanat, l'artisanat local. Et notamment l'école, par exemple, qu'on va aider, qui est au centre-ville.
Pour la bibliothèque, oui.
Pour la bibliothèque. Bon, on ne montre pas la bibliothèque, mais on montre les enfants. Et on a fait un concours de dessin et on montre leur dessin, enfin les dessins des CM2. Il y a 4 classes de CM2, donc 150 élèves qui ont fait des dessins et on a sélectionné quelques jolis dessins. Et donc dans le film, on montre aussi la sortie de l'école à la fin de la semaine avec le lever des couleurs, ou la descente des couleurs plutôt. Et donc le chant national hein, qui est chanté par toute l'école. Donc il y a aussi des documents, notamment le rapport de l'étudiante hein, sur le Moringa.
Voilà, donc
alors, je voudrais signaler aussi qu'il existe d'autres associations qui sont dans la région de Tulliard et qui travaillent dans la région de Tulliard et qui sont dans la région de Montpellier, notamment Enfants du Soleil qui a 3 cantines, Aide aux enfants malgaches qui a une école de 150 élèves. Il y a Envol aux enfants malgaches aussi, qui est une école privée de 70 élèves, je crois. Et puis, il y a aussi un bureau d'études, Espère Solidaire, qui travaille dans la région, dans le domaine de l'eau, à Tulliard, à Saint-Augustin au sud de Tulliard et à Morombé au nord de Tulliard.
Oui, donc vous avez des partenaires intéressants là.
Voilà, on a des. Donc il y a des. Effectivement.
Alors on peut adhérer à Format d'environnement.
Oui, c'est une adhésion qui est modeste, de 10 euros. Et on va voir dans notre assemblée générale le 28 janvier, l'assemblée générale ordinaire de 2016, le 28 janvier.
Donc vous incitez. Ah ben, bien sûr, adhérer.
Plus on a d'adhérents, on a une quarantaine d'adhérents, si on pouvait avoir plus.
Oui, parce que les projets sont importants.
C'est surtout les adhésions et puis les dons qui nous font vivre.
Et voilà. Alors, merci Serge. Je passe rapidement au calendrier. Eh bien, c'est demain qu'a lieu le Café Actualité du Centre Documentation Tiers-Monde sur le thème « Nouvelle donne dans l'immigration ». La question des réfugiés dans l'Europe de Schengen. Et ce café actualité sera animé par Chantal Germain et Françoise Dubourg de la CIMAD. Et bien sûr, il se terminera par un buffet convivial avec dégustation de café du commerce équitable. Donc de 12 à 14 heures, demain mardi, à l'espace Martin Luther King, 27 boulevard Louis Blanc. Et puis... comme nouvelle, eh bien, je dois mentionner le prix Olaf Palme au pasteur Mitri Rabé. Le docteur Mitri Rabé et le journaliste israélien Gideon Lévy ont reçu le prix Olaf Palme pour leur lutte courageuse et infatigable contre l'occupation et la violence et pour un Moyen-Orient futur caractérisé par une coexistence pacifique et une égalité pour tous. Il y a beaucoup de travail encore à faire. Dans une ville de Bethléem, je rappelle que Bethléem est jumelée avec Montpellier, confinée sur 3 côtés par les murs de la puissance occupante israélienne, avec l'Institut des Arts et de la Culture de l'Université Dar al-Kalima, qu'il a fondée, et sa formation artistique innovante dans les domaines du film, de l'art et du théâtre, Raheb a donné la possibilité aux jeunes d'étudier leur identité palestinienne, de s'ouvrir à la beauté et d'investir dans une culture de vie comme outil de résistance créative à l'enfermement étouffant et de préparation à la construction d'une nation. Le prix Olof Palme a été attribué dans le passé à des personnalités éminentes, dont le président tchèque Václav Havel, l'ancien secrétaire général des Nations Unies Kofi Annan, la dirigeante birmane Aung San Suu Kyi, Amnesty International et l'avocat afro-américain Brian Stevenson. Alors Olof Palme, qui était dirigeant du Parti social-démocrate suédois et deux fois Premier ministre, a été aussi l'un des dirigeants les plus prophétiques de son temps en s'opposant au régime d'apartheid d'Afrique du Sud. Voilà un peu des nouvelles. Je rappelle aussi que la semaine de l'unité commence aujourd'hui, lundi 18 jusqu'au 25 janvier, et que cette année, ce sont les églises de Lettonie qui ont préparé le thème de la semaine de prière pour l'unité chrétienne. Il y a plusieurs associations de la Maison des Tiers-Mondes qui sont investies dans cette semaine de l'unité, dont l'ACAT et le CCFD. À bientôt, chers auditeurs.